Bonjour, c'est Benjamin Muller, bienvenue dans le podcast des maternelles. Le podcast des maternelles pour revenir aujourd'hui sur ce témoignage très fort et très important. Je pense que c'est très important de donner la parole sur ce genre de sujet. Vous allez pouvoir entendre ou réentendre Audrey qui est venue ce mardi matin sur France 2. Audrey, la maman de Jules, qui a eu le courage de venir nous dire « Bah oui, moi quand j'ai accouché, bah j'ai pas aimé mon bébé tout de suite. » Voilà. Je l'ai pas aimé tout de suite, il n'y a pas eu le coup de cœur, il n'y a pas eu ce qu'on décrit dans les films américains, le coup de foudre pour son bébé. Audrey, c'est très courageux de sa part d'être venue le raconter parce qu'on sait que c'est le cas de beaucoup de parents, de ne pas avoir ce coup de foudre immédiat. Donc vous allez entendre Audrey, puis après on va en parler tranquillement, à tête reposée et de manière très déculpabilisante avec le docteur Romain Dugravier qui est psychiatre. L'épisode du podcast des maternelles du mardi, c'est parti.
Alors évidemment, il y a des mères qui, quand elles voient, elles rencontrent leur bébé pour la première fois, vivent un véritable coup de foudre. Et puis pour d'autres femmes, le chemin pour se sentir mère est un tout petit peu plus long, un tout petit peu plus sinueux. Bonjour Audrey.
Bonjour.
Alors Audrey, vous êtes de ces femmes pour qui ça a été un petit peu plus difficile. Le lien s'est pas tissé tout de suite à la naissance. Vous avez même dû être hospitalisée avec votre bébé pour, apprendre à vous sentir maman. Merci infiniment d'avoir le courage de venir sur ce plateau pour parler de ça, parce que forcément, dans l'idée générale, la maternité, c'est un moment qui est formidable, qui est idéal, etc. Mais il y a beaucoup de femmes qui culpabilisent, donc merci de libérer la parole. Comment s'est passée cette grossesse déjà? Elle était très désirée, il faut le dire.
Oui, elle était attendue. En fait, elle venait récompenser 3 années un peu difficiles, hein, qui étaient jalonnées par des fausses couches précoces, donc quelque chose de très médicalisé. Pour moi, c'était le moment de prendre conscience que finalement, la grossesse, c'était quelque chose qui pouvait être très fragile. Donc, quand Jules s'est accroché, j'étais très heureuse de la nouvelle et en même temps, très marquée par les fausses couches, donc toujours dans la crainte de pouvoir le perdre malgré tout.
Dans un état de stress, pas possible.
Oui, ouais, dans la crainte de le perdre. Et puis... Et puis, en même temps, paradoxalement, j'ai pris conscience de l'impression, enfin de l'enjeu. C'est que 6 mois après, j'allais être maman, plein de responsabilités, plein de choses à porter. Et c'est vrai que d'un seul coup, je me suis sentie enfermée dans un état que je maîtrisais plus, que je contrôlais plus. Et d'avoir ces émotions-là, à cet instant-là, c'était très compliqué parce que je me disais, bon, bah, le bébé doit ressentir forcément mes doutes, mes craintes. Ça se trouve, il va se penser qu'il n'est pas désiré, que je ne le veux pas. Voilà, donc c'était très culpabilisant dès le départ. Mais par contre, la grossesse s'est très bien passée d'un point de vue physiologique.
Mmh. Mais ça venait d'où, à votre avis, cette culpabilité? Est-ce que vous avez pu l'analyser? Alors, il y avait les fausses couches, mais est-ce qu'il y a une histoire familiale ou...
Oui, moi, j'ai ma maman qui a perdu sa propre maman en couche d'une prééclampsie. Et elle-même a vécu des grossesses difficiles, 2 accouchements sous césarienne. Donc, moi, j'ai été bercée par une image de la grossesse assez morbide. Et finalement, pendant très longtemps, pour... je ne sais pas si c'est pas par mesure de précaution. Le désir d'enfant, ce n'était pas une finalité en soi. C'était pourquoi pas. Et puis, j'ai rencontré mon mari. Et là, c'est devenu une envie réelle, quoi.
Est-ce que vous avez pu parler de vos doutes, de cette culpabilité à quelqu'un?
Alors, mon gynéco a été en or parce que dès le 3e mois, donc, je lui ai écrit en lui disant que je ressentais énormément d'angoisse, que je dormais plus, que j'étais pas bien. Et très très vite, il m'a accompagnée ainsi que mon mari et il nous a recommandé de commencer la préparation à l'accouchement avec une sage-femme libérale pour essayer justement de calmer toutes ces angoisses et puis de démystifier un peu l'accouchement, ma peur de l'accouchement, ma peur de l'après-accouchement, ma peur des responsabilités ou de toutes ces sensations, ces transformations que je ressentais dans le corps ou que j'appréhendais de ressentir.
Vous avez demandé à accoucher par césarienne?
Oui.
C'était à cause de la phobie, enfin une phobie de l'accouchement?
Oui.
Par voix basse?
Et alors c'était ça et c'était aussi que pendant 5 mois, j'ai dormi 3 heures par nuit et j'étais angoissée du soir au matin. Et du coup, mon gynécologue m'a dit que je ne pourrais pas tenir le travail. J'étais déjà dans un état d'épuisement trop avancé.
Alors là, la césarienne s'est très bien passée.
Oui.
Comment s'est passée la rencontre? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous voyez pour la première fois votre petit bébé?
La rencontre, alors la première vraie rencontre s'est faite au bloc opératoire, donc j'étais pas, disons, disponible. Ça a duré 2 secondes, et puis ensuite, Jules est parti avec son père, et voilà. Moi, je l'ai rencontré 2 heures après, en chambre. C'est mon mari qui est venu me le déposer sur le ventre, et j'avais fantasmé cette rencontre, je crois, vraiment, avec tout ce que je pouvais lire, voir, entendre. Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui allait exploser en moi, un amour énorme, et je le guettais, je l'attendais, j'observais ce petit être très fragile posé sur moi. Et au final, je voyais un étranger. Enfin, il n'y avait pas de... Oui, il était joli, il était mignon, mais moi, je voyais le... C'est petit, c'est fragile. Alors du coup, il y a beaucoup de responsabilités. Il n'est pas autonome. Enfin, je voyais tout ça, surtout.
Mmh. Alors que votre mari, lui, était...
Ah bah lui, il était dans le...
Bouleversé de bonheur.
C'était comme c'était très attendu et que je lui ai fait vivre une grossesse un peu difficile. Lui, il était vraiment dans la rencontre, vraiment, dans son rôle de papa. Et c'est vrai que du coup, moi, mon ressenti, je l'ai masqué, je l'ai tué parce que je voulais pas lui gâcher sa rencontre à lui, quoi.
Lui, il s'est rendu compte du décalage. Votre mari, il a vu que vous alliez pas bien, vous étiez...
Je crois pas, parce que pendant toute ma grossesse, alors je pense que c'était pour tenir, je lui avais dit, tu verras, une fois que je vais accoucher, je vais aller mieux, en fait. Parce que je matérialisais mon mal-être par le bébé, le fait de porter le bébé. Mmh. Et donc, la délivrance allait me délivrer du mal-être, allait me délivrer des angoisses. Et je crois qu'il y a cru autant que moi, finalement. Donc, non, il ne s'est pas rendu compte.
Alors, le retour, on sait que à la maternité, on est quand même protégé parce qu'on a toutes les puéricultrices, les sages-femmes qui sont là pour nous accompagner. Le retour, c'est quand même un moment très, très compliqué. Comment ça s'est passé pour vous, alors que vous étiez déjà dans ce décalage?
Enfin, clairement, c'était l'état de siège à la maison. Je rentrais en guerre. Enfin, c'était devenu très militaire. Il y avait les biberons préparés à l'avance. Il y en avait 5 ou 7 comme ça étalés sur la table basse. Les dosettes toutes prêtes, la bouillotte toujours chaude. Dès qu'on le changeait, c'était limite si j'allais pas laver le body alors qu'il y en avait 15 propres dans le tiroir. Enfin, c'était tout ce que je pouvais maîtriser. J'avais ce besoin de contrôler, de maîtriser parce que mon enfant, finalement, c'était un inconnu. Et je ne comprenais pas ce qu'il attendait de moi. Enfin, j'avais du mal à savoir ce que je devais faire de lui. Et la chose la plus terrible, c'était ses pleurs. Ses pleurs, je les vivais vraiment très, très mal. J'avais l'impression plus qu'il pleurait qu'avec moi. Si ça avait des mots, c'était que des flots de reproches. Enfin, j'avais vraiment cette perception-là et c'était très compliqué à vivre.
Et puis un jour, vous avez compris que vous n'alliez pas tenir le coup. Hein. Là, après cette organisation militaire, qu'est-ce qui s'est passé ?
En fait, on faisait une sieste à la maison et je me réveille avec une attaque de panique. Et à ce moment-là, je peux plus rien taire. Donc, je réveille mon mari et je lui dis « Faut que tu m'emmènes à l'hôpital, ça va pas du tout. Ton congé paternité se termine. Tu peux pas me laisser avec Jules. J'ai peur de lui faire du mal, j'ai peur de le laisser tomber, j'ai peur de partir parce que pas savoir comment le gérer et de fuir. Donc, me laisse pas toute seule. Faut qu'on trouve une solution, quoi. » Pour lui, ça a été foudroyant parce qu'il a pris la réalité comme ça, de manière assez violente à ce moment-là.
Vous êtes entrée en unité mère-enfant le lendemain de cet épisode. Comment ça s'est passé là-bas ?
C'était, pour nous, ça a été très réconfortant parce que c'est quelque chose qu'on a vécu assez en solitaire. On se sentait très seul dans ce qu'on traversait. Donc, on s'est senti pris en charge. Donc, c'était très réconfortant. Et en même temps, pour moi, c'était terriblement angoissant parce que je devais être enfermée 24 heures sur 24 avec mon fils, qui était l'objet de toutes mes angoisses.
Eh oui.
Donc pour moi, c'était assez terrible. Mais l'équipe a su être très enveloppante, très bienveillante. Elle m'a déjà, Jules a été mis en nurserie pour les nuits, pour que je puisse, moi, récupérer le sommeil. Et puis, elle m'a accompagnée dans le quotidien, dans tous les gestes du quotidien. Dès que j'avais une question, j'avais des référentes vers qui je pouvais me tourner pour parler de mes peurs à son égard ou même moi, en tant que maman, dans mes interrogations, mes doutes.
Du coup, le regard sur vous a commencé à changer un petit peu ?
Oui,
vous
oui.
Vous avez commencé à perdre un peu cette culpabilité ou ce sentiment de ne pas pouvoir faire face ?
Oui, et puis de rencontrer d'autres mamans aussi dans des problématiques qui n'étaient pas forcément les mêmes, mais de voir que finalement, il y a plein de femmes à cet instant-là de leur vie qui rencontrent des doutes, qui traversent des moments pas forcément agréables. Ça déculpabilise beaucoup, en fait.
Et quand vous êtes rentrée alors de ce séjour à l'hôpital, donc vous avez commencé en allant mieux à vivre à 3, parce que finalement, vous n'aviez pas beaucoup vécu à 3 avec votre conjoint. Comment ça s'est passé ?
Ça a été compliqué le retour à la maison parce que moi, on était à contre-courant. Moi, c'était un retour à la vie Et pour mon mari, c'est le moment où il a pu lâcher un peu la pression des mois passés. Et du coup, ce qui a créé un écart entre nous. Donc, on en a tout de suite parlé à l'unité mère-bébé qui nous a conseillé d'aller voir une thérapeute de couple pour essayer justement de retrouver un équilibre et de réajuster les choses.
C'est ça, vous avez, en tout cas, tout au long de cette histoire, ce qui est formidable, c'est que vous avez toujours été proactive, on le sent, pour vous faire accompagner, pour vous faire aider. À quel moment est-ce que le véritable sentiment d'amour, le lien avec Jules, vous l'avez ressenti ?
À son entrée en maternelle.
C'est après 3 ans.
C'est là, pour moi, c'était en tout cas l'émotion que j'étais censée ressentir à la grossesse. Je l'ai ressentie ce jour-là, où à 2 ans et demi, avec son sac à dos, il est rentré en classe, où on lui a retiré la tétine.
Et, trop mignon.
Et je l'ai vu pleurer. Et moi, j'étais en lambeaux. Je suis rentrée, j'étais pas bien toute la journée. Et c'est là que j'ai dit à mon mari, mais je crois que ça y est, je peux dire que je suis une vraie maman. Je ressens les émotions normales, quoi.
Ça a dû être un moment...
C'était très fort.
Très, très fort. Ouais. En même temps, vous dites que quand il était petit, ce qui était le plus difficile pour vous à gérer, c'était les pleurs.
Oui.
Vous êtes déjà mère en disant ça. Ouais. Parce que si on s'en fiche, en fait, bon, bah, voilà, à part être énervée par les pleurs, ça nous déchire pas. Et alors aujourd'hui, comment est-ce que vous allez ?
Eh bien, on va bien. On va bien, on grandit ensemble. Jules connaît son histoire, son début d'histoire. On retourne à l'hôpital du Vésinet tous les ans parce que c'est important pour nous de témoigner pour les patientes qui sont hospitalisées. Jules manifeste l'envie forcément d'avoir... Alors lui voudrait un grand frère. On lui explique que ça peut être compliqué, mais voilà. Donc on y réfléchit. C'est vrai qu'on a un peu peur de déstabiliser l'équilibre. Mais en même temps, c'est vers qui se tourner. On n'hésitera pas d'aller voir des professionnels, quoi.
Vous le sentez quand vous rencontrez les mamans dans l'unité mère-enfant que c'est un sujet qui est encore très, très tabou?
Oui, oui. Mais même pas qu'à l'hôpital, au quotidien. C'est vraiment un sujet qui est...
Vous êtes sentie jugée, vous, beaucoup ?
Oui, beaucoup. Mais même en venant témoigner, je me suis dit, il y a forcément des personnes qui vont faire des raccourcis en disant, mais elle n'avait qu'à pas faire d'enfant ou elle n'était pas... Et en fait, c'est, pour moi, la dépression du postpartum, c'est pas un problème d'amour. Ou si, c'est justement, il y a un tel trop-plein d'amour et l'envie de tellement bien faire qu'on se met trop de pression et que finalement, on se gâche les premiers moments, quoi.
Alors, si vous nous regardez et que vous êtes dans ce cas-là, vous n'avez pas pu créer lien avec votre enfant, peut-être même pas dans les extrêmes que vous avez vécu, mais il faut quand même dire que beaucoup de psys le disent depuis certaines années, même des décennies, l'instinct maternel, c'est une vue de l'esprit, ça n'existe pas, c'est pas forcément si évident, donc il faut essayer de ne pas trop culpabiliser, et je pense que vous avez beaucoup aidé les jeunes mamans qui nous regardent aujourd'hui. Merci vraiment 1000 fois pour ces témoignages très, très importants. Et si vous le ressentez, faites comme Audrey. Demandez de l'aide, n'hésitez surtout pas. Bonjour, docteur Dugravier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes pédopsychiatre, spécialiste du lien d'attachement, directeur du Centre de psychopathologie périnatale à l'Institut Paris-Brune. Je le disais tout à l'heure, on a beaucoup dit que l'instinct maternel n'existait pas ces dernières décennies. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Parce que c'est vrai que nos mères, moi j'entends quand ma mère me dire « Ah, quand on t'a posé sur mon corps, j'ai eu tout à coup un coup de foudre, une vague d'amour. » Moi, je dois le dire aussi, quand j'ai eu mon fils dans les bras, je me suis dit oh, « il ressemble un peu à rien, il ressemble pas du tout à ce que j'avais imaginé. » Alors, est-ce que cet instinct est-ce que je ne suis pas normale ou est-ce que l'instinct maternel, c'est une légende ?
Je crois que ce qu'a dit Audrey est important sur la question de la démystification. C'est vrai qu'on entend ça. Et il y a beaucoup de parents qui peuvent, dans les premiers instants, éprouver un élan très intense dans la relation, enfin, dans la découverte de ce petit enfant. Mais ce qui est important d'avoir en tête, c'est que d'abord, on est très inégaux devant cette question-là. Et que de toute façon, la construction de la relation, c'est un processus. Et on est tous centrés sur cette première rencontre, réussie ou pas. Et beaucoup de femmes et de couples viennent en disant « on n'a pas eu ce premier moment et on a l'impression d'avoir raté quelque chose et que peut-être c'est irrémédiable ». Et je crois que le message très important, c'est que cette relation se construit sur la durée.
Et que on apprend à connaître son enfant.
On apprend à connaître à travers tous les moments, d'abord la première découverte, les temps du soin, les temps du le sommeil, les repas et autres. Et c'est tous ces moments-là qui vont construire cette relation.
Ce que vous disiez là, c'est que le témoignage d'Audrey, c'est quelque chose de très commun. Finalement, on n'est pas dans l'exceptionnel.
Ce que je disais, c'est que moi, j'entends des témoignages comme celui d'Audrey tous les jours, de femmes qui ont vécu...
Et c'est important de le dire, ça, pour toutes celles qui nous regardent.
C'est crucial, c'est crucial. Quand je dis que c'est commun, c'est que c'est presque une femme sur 5 qui va vivre des sentiments proches de ce qu'a vécu Audrey. Presque un homme sur 10. Donc, finalement, autour de nous, on en connaît tous. La difficulté, c'est que d'abord, quand on est parent et qu'on éprouve ce genre de sentiments contradictoires, en décalage avec ce que la société nous a dit, ce qu'on imaginait de cette première rencontre, ça peut être extrêmement culpabilisant, comme elle l'a très bien dit, et on peut vivre un sentiment de solitude magistral. Et puis, je crois que l'autre point important, c'est la question du sentiment d'insécurité. Quand on a l'impression qu'on ne peut pas prodiguer les soins nécessaires à son bébé, qu'on ne peut pas le protéger, s'en occuper, on peut sentir soi-même très insécurisé. Et là, c'est comment arriver à s'appuyer sur d'autres pour demander de l'aide.
Qui concerne donc les mères et les pères. C'est important de le dire.
C'est très important.
On a reçu cette question pour vous d'Axel, regardez.
Bonjour. Audrey raconte que malgré l'absence de lien, elle répondait aux besoins de son fils de manière automatique. Est-ce que dans ce genre de situation, ce mode pilote automatique est courant ? Merci beaucoup.
Alors ça, c'est aussi quelque chose que j'entends beaucoup. Et je pense que c'est ce que j'entends de ce qu'a évoqué Audrey, qui à mon avis est vraiment un témoignage très important, c'est le fait qu'il y avait une sorte de mise en compétition, en rivalité entre les besoins de son bébé et ses propres besoins. Elle a très bien parlé de son sentiment d'insécurité, le fait qu'elle avait l'impression de ne pas réussir à être suffisamment disponible. Et à ce moment-là, il est possible de pouvoir construire un moyen de protection, c'est-à-dire prendre soin de son bébé, en prendre très bien soin, et en même temps, pas se sentir suffisamment disponible psychiquement et affectivement. Donc moi, c'est ce que j'entends très très souvent, oui.
Vous disiez qu'une femme sur cinq pouvait ressentir ça. Louisa nous pose une question et nous demande s'il y a des femmes qui sont plus sujettes à ça que d'autres, qui ont plus ce risque-là que d'autres.
Alors, si on parle des dépressions périnatales, oui, il y a des facteurs de fragilisation possibles. Avoir déjà vécu une histoire dépressive peut nous fragiliser. Et puis, il y a aussi toute la question du parcours de la grossesse. Avoir une grossesse teintée d'anxiété, comme l'a évoqué Audrey, avoir des imprévus aussi, un accouchement plus compliqué qu'imaginé, être pris par surprise. On entend beaucoup, par exemple, des césariennes en urgence, et à quel point ça peut faire rupture dans les premiers temps de la rencontre, et parfois, ça peut être un facteur favorisant d'anxiété, voire de dépression.
Clémence vous demande, quand le lien ne se fait pas, à qui peut-on en parler ?
Je crois que le premier interlocuteur, c'est le professionnel qu'on connaît déjà.
Sage-femme,
médecin. La sage-femme, l'obstétricien, le pédiatre. Les pédiatres ont une place très importante parce que dans ces questions-là, Audrey l'a dit, elle est sortie de la maternité, il a fallu du temps pour qu'elle puisse s'exprimer ce qu'elle ressentait. Et souvent, les professionnels de santé qui étaient là au début ne sont peut-être plus aussi impliqués dans le suivi. Et donc la place des pédiatres, la place des sages-femmes qui font l'accompagnement des suites de la naissance est cruciale.
La première question qui nous a été envoyée de Vanessa, le fait que le lien n'apparaisse pas dans les premiers jours ou les premiers mois, peut-il avoir un impact sur le développement du bébé ?
Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que ça, vraiment, il faut le relativiser. Et si on reparle de ce que c'est que le lien d'attachement, c'est le besoin d'un enfant de trouver une relation avec un adulte qui va le rassurer et le sécuriser. C'est un processus, c'est au moins toute la première année de vie de l'enfant, voire beaucoup plus longtemps, bien sûr. Et donc, ce premier temps-là, même si pour les parents, ça peut être déstabilisant, culpabilisant, ne détermine pas le devenir de cette relation. Voilà.
Donc c'est rassurant.
On a une question qui concerne les hommes. La dépression du postpartum existe-t-elle pour eux ? Mon mari n'a pas voulu s'occuper de notre petite pendant 6 mois. Beaucoup de pleurs, d'interrogations pour nous.
Alors, je crois que ce que je disais tout à l'heure, oui, ça existe, la dépression chez les pères. C'est moins fréquent, peut-être, un peu. On dit souvent 8 à 10% des hommes. Probablement que c'est encore plus compliqué de le repérer et l'identifier chez des hommes parce que les manifestations sont plus atypiques, sont plutôt manifestées par des fuites, le refuge dans le travail.
D'accord.
Ou d'autres comportements. Qui fait que, et puis que les hommes ont encore moins l'habitude de parler librement de ce qu'ils peuvent éprouver.
Oui.
Et qu'il y a peu d'interlocuteurs posés sur leur trajectoire.
Enfin, c'est intéressant, des fuites, c'est-à-dire des hommes qui, d'un coup, vont rentrer plus tard, vont rentrer à 22 heures du travail, vont partir le week-end, vont se débrouiller pour ne pas être là, quoi.
Par exemple, ou aller trouver les amis plutôt que de rester auprès de son bébé et de sa femme. Parfois, ça peut être une manière d'échapper à quelque chose qui est trop angoissant.
Mais, mais c'est important de le dire, parce qu'on pourrait se dire, ouais, il pense qu'à ses potes, mais en fait, non.
C'est un refuge.
Ça peut être pensé comme un refuge, et puis comme une inquiétude qu'il peut avoir dans la construction du lien avec son enfant, et puis aussi de pouvoir être là pour sa femme. On sait bien que c'est très déstabilisant pour le couple, l'arrivée d'un bébé.
Bien sûr.
C'est fabuleux, mais c'est aussi une remise en question.
On redistribue les cartes.
Et conduite à risque aussi pour les hommes, beaucoup plus que les femmes.
Oui, c'est ce qu'on décrit dans les dépressions. Les dépressions chez les femmes s'expriment rarement par la tristesse et par les pleurs. Ça s'exprime plus par un sentiment d'incapacité, d'impuissance, un sentiment de solitude, parfois une forme d'irritabilité, tout ce qu'a très bien décrit Audrey tout à l'heure. Chez les hommes, c'est encore différent. C'est très rarement mis sur le compte des émotions, mais plus sur des agir. Donc, ce que je disais tout à l'heure, aller ailleurs pour essayer d'échapper à la situation.
Pourquoi est-ce si tabou, on en a fait trop sur cette fameuse vague d'amour censée nous submerger à la naissance? Est-ce qu'on en fait trop sur cette vague?
De toute façon, c'est plus que la vague d'amour, c'est la maternité et la parentalité en général. Ouais.
C'est encore une fois, c'est ce qui était très bien décrit tout à l'heure sur ce qu'on imagine de ce qui va arriver et le décalage parfois manifeste. Il y a des raisons pour ça. Elle l'a très bien expliqué. Il peut y avoir, encore une fois, une question de conditions de naissance. Et puis, il y a un exemple très bien connu, c'est la prématurité. La prématurité, ça peut être une vraie rupture dans l'élaboration de ce lien. Et beaucoup de parents qui ont un enfant prématuré peuvent être traversés par un sentiment d'incompétence, d'isolement. Et maintenant, il y a des travaux très importants des néonatologistes pour les aider dans la construction de cette relation. Mais c'est un exemple parmi d'autres. Et puis, encore une fois, moi, j'ai beaucoup entendu le décalage entre ce qu'on imaginait de l'accouchement, de la grossesse, de l'accouchement.
C'est pour ça que vous parliez de césarienne en code rouge tout à l'heure.
Voilà, exactement.
C'est la même logique que la prématurité, même si les deux choses sont complètement différentes, mais c'est la même.
C'est un moment qui fait effraction entre ce qu'on avait anticipé, imaginé, et puis être pris par surprise.
Donc, ce qu'on pourrait conseiller aux femmes concrètement, le plus possible, c'est de ne pas fantasmer l'après. C'est-à-dire essayer de se dire, tiens, tout est possible, on verra comment je suis. C'est difficile.
C'est compliqué de répondre à ça, parce que ça fait partie de la construction de la relation, de pouvoir imaginer ce bébé et son arrivée. Mais c'est surtout, d'abord, même s'il y a un moment difficile, imaginer que tout n'est pas joué dans ce moment-là. Ce qui est difficile, ce n'est pas le moment douloureux, c'est le sentiment de ne pas pouvoir en sortir, le sentiment d'impuissance vécue du
moment douloureux. Ça veut dire rien n'est figé et il faut se le répéter.
Le traumatisme, c'est j'ai vécu quelque chose de douloureux dont je n'arrive pas à m'extraire. Donc, pouvoir le débriefer, le reprendre. Et là, encore une fois, les sages-femmes et les obstétriciens ont un rôle très important pour la reprise des éléments de l'accouchement, pour aider à surmonter un moment qui serait potentiellement traumatique.
On a une question de Florence qui demande, hormis un séjour en unité mère-enfant, est-ce qu'il y a d'autres aides possibles?
Ah oui, ça c'est très très important.
Lesquelles?
D'abord, encore une fois, si on parle de presque une femme sur cinq qui fera une dépression, donc j'y réfléchissais, ça fait plus de 100 000 femmes par an en France, donc c'est énorme. Donc évidemment, elles ne peuvent pas toutes aller en unité mère-bébé. Et elles n'en ont pas toutes besoin en plus. La première chose, c'est les acteurs de première ligne dont on parlait. Les pédiatres, les sages-femmes, les obstétriciens, ça c'est crucial. Et pouvoir parler librement à ces professionnels qui sont sensibilisés, formés et qui savent comment aider et comment orienter, c'est le premier enjeu. Et ensuite, il y a quand même tout un mouvement aujourd'hui pour développer ce qu'on appelle la psychiatrie périnatale ou la psy-périnatalité, qui repose sur des consultations de proximité et éventuellement une offre un peu étoffée, type visite à domicile ou consultation. Et j'oublie un autre point important, c'est important de connaître, c'est les services de protection maternelle et infantile. Ça couvre toute la France. Il y a des médecins, des puéricultrices, des sages-femmes, des groupes de parole, des groupes d'échange. Donc il y a des lieux d'accueil pour les parents qui permettent de ne pas nécessairement aller tout de suite vers le soin psychique.
Oui, le but est de lutter contre la solitude. Nous, c'est vrai que ça fait 6 ans qu'on travaille sur cette émission. Marie, vous-même, vous en avez reçu des centaines, des milliers de témoignages sur la solitude, justement.
Le premier geste, c'est de pousser les portes des PMI. Au-delà de trouver les ressources sur les réseaux sociaux qui sont un petit milieu d'aide et de solidarité, pousser la porte des PMI, c'est un message.
On en a tous une près de chez soi.
Et la solitude, c'est très important parce qu'il y a la solitude dans la réalité et il y a le sentiment de solitude. Et je crois que c'est ce que disait Audrey. C'est-à-dire que dans le moment où elle se sentait moins bien, quelle que soit la bienveillance et la disponibilité de son entourage, à un moment, on peut ne pas se sentir compris. Et là, on peut se sentir très seul.
Alors qu'on est entouré, oui.
Exactement. Ouais. Ça, c'est très important.
Question de Diane. Je souffre du fait que ma fille de 18 mois affiche une préférence pour son père. Est-ce qu'un enfant peut vraiment aimer un parent plus que l'autre? On s'éloigne un tout petit peu du sujet, mais c'est intéressant.
Oui, je crois que quand on parle de... Moi, je l'entends souvent aussi, des parents qui s'inquiètent d'une forme d'une relation privilégiée avec l'un des deux. Je crois d'abord qu'il y a des périodes et qu'on ne joue pas toujours le même rôle entre les deux parents. Communément, on attribue aux mères un rôle de protection et de réassurance, et aux pères, l'idée qu'ils vont aider les enfants à découvrir le monde. C'est un peu caricatural, et évidemment, ce n'est pas nécessairement assigné au genre. Mais pour répondre à la question de cette jeune femme, à 18 mois, on a peut-être plus envie d'être vers l'extérieur, de faire des expériences, de découvrir. On a peut-être moins besoin d'être cette réassurance et par cette proximité-là.
Les choses évoluent, non, sur les, justement, les stéréotypes. Enfin, dans l'histoire de la parentalité, ça a beaucoup été ça, le père qui allait vers l'extérieur, la mère qui faisait les gros câlins.
Ouais.
Vous le sentez que ça change ou on reste encore globalement quand même là-dedans?
Moi, je suis impressionné en consultation de voir la mobilisation différente des pères. Il y a le congé paternité dont on a parlé. Mmh. Mais avant même le congé paternité, j'ai vu beaucoup de pères qui organisaient leur congé pour pouvoir passer du temps avec leur bébé et leur femme pour faire connaissance ensemble. Le congé paternité a majoré cette possibilité-là. Donc, et je les vois beaucoup en consultation. Et ça, pour moi, c'est quand même relativement nouveau. En tout cas, dans ma consultation, ça fait 5 ans, je dirais, que je vois des pères quasiment systématiquement.
C'est depuis qu'on travaille dans cette émission.
J'ai l'impression que ça correspond bien.
Alors, cela dit, juste là-dessus, vous savez, sur les réseaux sociaux, qui sont un peu nous, notre baromètre, on a les statistiques de qui nous suit. Et je ne sais pas vous, mais moi, c'est 96% de femmes.
14, moi, j'ai un peu exagéré. Ça fait un peu baissé.
Il y a encore un petit peu de travail.
On va voir si le congé paternité change ça, voilà, pendant le premier mois.
Eh oui, non, mais c'est vrai, ça serait intéressant.
Géraldine vous demande, le fait de ne pas réussir à créer un lien avec son bébé va-t-il forcément de pair avec une dépression postpartum?
Non, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a plein d'autres raisons potentielles. Il y a la naissance d'un enfant prématuré peut faire obstacle à la construction de cette relation. Il peut y avoir aussi simplement des conditions adverses. Vivre dans des conditions très précaires peut altérer notre disponibilité. Il y a le terme d'Audrey tout à l'heure sur l'insécurité, il est très important. Si on ne se sent pas soi-même suffisamment confiant, suffisamment en sécurité, c'est compliqué de pouvoir prendre soin d'un être dépendant et vulnérable. Donc, tout ce qui peut faire effraction avec ce sentiment de sécurité peut fragiliser la construction du lien.
Mais ça peut venir avec le temps.
Encore une fois, c'est le fragiliser, voilà. Il n'y a rien de déterminé. Le tout, c'est d'arriver à sortir des isolements potentiels.
Question de Laura, qui est enceinte de jumeaux. Elle a peur de ne pas s'attacher de la même façon à ses deux enfants. Et si le lien était plus fort avec l'un des deux jumeaux?
Alors, ça, moi, je pense que on confond la préférence et la singularité. La singularité, c'est que, de toute façon, avec nos enfants, moi, j'entends beaucoup de parents qui ont eu un premier enfant, ils disent « je l'aime tellement que je ne peux pas imaginer aimer autant le deuxième ».
Ça arrive souvent d'entendre ça.
Ouais. Et puis, ils découvrent, à l'arrivée du deuxième, que c'est juste différent. C'est singulier. Ce n'est pas plus ou moins, c'est une autre relation, une autre expérience. Et donc, si la question est légitime, je pense qu'elle va se résoudre dans la découverte des enfants avec... Pareil, on confond un peu l'affinité, c'est-à-dire je me sens plus à l'aise avec mon garçon que ma fille, ou l'inverse, et la préférence et l'amour. On peut se sentir plus à l'aise, mais on peut être aussi très heureux de découvrir un enfant qui ne nous ressemble pas, qui est singulier, qui nous surprend. Donc pour moi, la préférence, c'est une question d'enfant, ce n'est pas une question de parents.
D'accord.
Alors Marianne vous demande, le conjoint peut aussi avoir du mal à comprendre cette absence de lien? D'autant plus que lui a créé un lien tout de suite. Comment gérer ce déséquilibre?
C'est ce qu'on disait tout à l'heure de l'éventuel sentiment de solitude à l'intérieur du couple, le décalage dans la perception. C'est comment pouvoir d'abord se le dire, et je disais tout à l'heure, même si on se le dit, il n'est pas sûr que l'autre puisse le comprendre, puisque ça ne s'est pas enclenché de la même façon.
Audrey, avec son conjoint, ils ont été voir un psy de couple. Mmh. Est-ce que il faut recommander ça?
Ça peut être une solution, mais encore une fois, tout professionnel de santé un peu formé peut aider à trianguler, c'est-à-dire à faire prendre conscience à celui qui n'est pas aussi en difficulté que l'autre, pour des raisons qui lui appartiennent, a besoin d'une relation qui se construit de manière plus progressive.
Voilà, c'est la fin de cet épisode, je l'avais dit, sur un sujet sensible, mais c'est très important qu'on puisse en parler. Donc merci encore à Audrey d'être venue jusqu'à nous et au docteur Dugravier. C'est toujours un plaisir de l'écouter. On se retrouve demain, mercredi ou avant, sur les différents réseaux sociaux. Si vous voulez nous suggérer des thèmes pour l'émission, des thèmes de chronique, que ce soit à moi, à Yasmine, à Marie-Père Arnaud, à Karim, ou au coach Arnaud Pferdorf ou à Narwa, n'hésitez pas à venir nous voir sur Instagram, on aime beaucoup échanger avec chacun d'entre vous. À demain, j'espère.